Merci beaucoup Ludovic Piétenu, vous avez été bon et à l'écoute et on va se tourner vers nos potes de gauche, je veux dire ils sont géographiquement situés à ma gauche, je veux parler du politologue Nicolas Rousselier qui a notamment publié La force de gouverner chez Gallimard et d'Elisabeth Pinault, correspondante politique pour Reuters, c'est présidente de l'association de la presse présidentielle. Une réaction Elisabeth Pinault.
Bonjour, mais écoutez, je trouve que Ludovic a assez bien résumé la Macronie qu'on peut résumer au bout d'un an, c'est-à-dire une équipe assez désarmante. C'est difficile d'apporter des critiques. Voilà, il y a un patron, Emmanuel Macron, toujours incontesté, un chef d'équipe, Édouard Philippe, dont on dit beaucoup de bien au sein du gouvernement. C'est difficile de trouver des détracteurs. Et il aurait à la fois cette élégance et cette façon de trancher. Cette façon de faire à la chef d'entreprise. Vous avez dit le mot manager. C'est la façon de procéder d'Emmanuel Macron.
Attendez, des critiques, on va en trouver. Mais déjà, des critiques, il peut y en avoir sur la manière dont les journalistes font leur travail. Sur la capacité qu'ils ont de le faire, votre quotidien, puisque donc vous suivez l'Élysée pour l'agence de presse Reuters, en quoi consiste-t-il et surtout en quoi est-il en rupture par rapport à ce que les journalistes faisaient sous les quinquennats, sous les mandats précédents,
Elisabeth Pinault. Je continue, oui, je reviens sur le billet. C'est aussi beaucoup de communication, la Macronie, énormément de communication. Donc il faut faire avec. Ça veut dire beaucoup de silence pour les journalistes. La République En Marche, par exemple, fait très peu de points presse. On les voit rarement. Quand on les voit, ils ont des éléments de communication, des éléments de langage, comme on dit.
C'est une communication qui est très verrouillée.
Très verrouillée. Il y a très peu de voix dissonantes. Il y en a eu quelques-unes, mais enfin, ils sont plus de 300 députés. Il y en a eu une ou deux. Et encore, personne n'a voulu insulter l'avenir. Et même celui qui a quitté La République En Marche, Jean-Michel Clément, a pesé ses mots lorsqu'il est parti. Il est parti de lui-même. Il s'en est expliqué avec Richard Ferrand, le président du groupe de la Semaine Nationale, par exemple. Voilà la seule critique qu'on a pu entendre. Donc, c'est quand même très verrouillé. Emmanuel Macron est toujours le patron. Ils lui doivent tous leur élection. Donc, c'est difficile de cracher dans la soupe. Pour l'instant, globalement, ils sont d'accord avec sa politique. Qu'il mène avec beaucoup de rapidité, sans aller...
D'accord, sur sa politique, par exemple, la loi asile et immigration, vous pensez qu'elle a vraiment fait consensus dans sa majorité ?
Alors, il y a eu un véritable malaise. Là, vraiment, oui, vous avez raison, on a vu le premier malaise. Mais il n'empêche que la loi a été votée, c'est ce qu'on nous répond toujours. Oui, il y a eu malaise, peut-être. Oui, il a quand même manqué une centaine de députés La République En Marche au moment du vote, ce qui
n'est quand même pas rien.
Voilà, un vote contre, mais une centaine d'absences. Mais quand on leur fait remarquer cela, ils disent, écoutez, oui, on a eu le nombre de voix nécessaires. Où est le problème ? Même chose, il y a deux jours, avec l'article 2 de la loi sur les violences sexuelles et sexistes, qui était très controversé, qui n'a finalement été voté uniquement par les voix de La République En Marche. Même le Modem, à une exception près, a voté contre. N'empêche que c'est passé. Donc c'est toujours ce qu'on vous répond. Finalement, c'est passé, c'est voté. Où est le problème ?
Mais avez-vous l'impression d'avoir affaire à un parti, je parle de La République En Marche, ou à des obligés ?
On a affaire à des députés qui sont très pragmatiques, qui mettent l'efficacité avant tout. Avant presque les convictions, avant la politique. Pour eux, il faut être efficace. Ils ont été élus. Ils ont un job à faire. Ils mettent un mot anglais à peu près toutes les phrases, pour la plupart d'entre eux, dont beaucoup viennent de la communication. On ne peut pas faire de généralité, mais enfin, il y en a beaucoup qui viennent du monde de la communication, qui savent communiquer avec les journalistes, qui savent écrire un communiqué de presse. Ils mettent cela avant tout, être efficace, avancer, voter des lois, agir. Et les convictions qui étaient primordiales, par exemple, lorsque les socialistes étaient au pouvoir, c'était des gens qui étaient militants depuis l'âge de 15 ans, qui avaient des convictions rivées au corps. Là, c'est très différent. Beaucoup sont arrivés en politique, en Macronie. Ils sont arrivés en Macronie qu'en politique. Mmh. Il y a un an, deux ans, pour faire quelque chose dans leur vie, presque faire une parenthèse dans leur carrière.
Ludovic Piétenu.
Nicolas Rousselier, cette efficacité, ce souci de l'efficacité, cette loyauté, est-ce qu'elle vous paraît plus importante sur ce début de législature que sous les précédentes ?
Oui, je dirais deux choses et je rebondis sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'il y a une nouveauté vraiment assez frappante, mais qui accentue des éléments qui existaient avant sous la Ve République. La nouveauté, c'est voilà, les députés de En Marche doivent leur élection, mais même je dirais leur existence politique, leur début politique au président, puisqu'on a cette succession en l'espace d'un mois, élection présidentielle, élection législative. C'était déjà le cas avant, en 2012 par exemple, mais là effectivement... si vous voulez, le macronisme présidentiel a véritablement inventé le macronisme partisan, puisque La République En Marche est ce produit-là. Et donc, ils sont dans un discours de l'efficacité, du pragmatisme. Chaque problème appelle une solution technique, parce que ça cache effectivement l'absence de ciment commun. Ils n'ont pas un ciment idéologique commun. Certains viennent de la gauche, certains viennent de la droite. Donc ça, c'est une nouveauté assez frappante sous la Ve République. La deuxième nouveauté, c'est l'entrée du discours de management à l'intérieur du travail parlementaire. Parce que, historiquement, le management, l'idée qu'un exécutif doit pouvoir s'organiser, être construit autour d'un organigramme, j'en ai parlé dans mon livre, ça, dans l'exécutif, c'est pas nouveau. Au contraire, ça date des années 1920-1930. Léon Blum a écrit des lettres sur la réforme gouvernementale où Léon Blum lui-même préconisait d'imiter le fonctionnement d'une grande entreprise industrielle pour penser l'organigramme de l'exécutif. Il parlait d'autorité, il parlait même de monarque. Il disait que le président du Conseil, à l'époque le Premier ministre, devait être un monarque. Et il disait républicain. Donc il était sur un siège éjectable, c'est-à-dire qu'il était responsable devant le Parlement. Et le Parlement restait souverain. C'est la différence avec aujourd'hui. Mais il y avait déjà ce discours de la nécessité technique de l'autorité. Donc ça, c'est pas nouveau dans l'exécutif, mais dans le Parlement, effectivement, on a plus ces parlementaires qui ont eu une longue carrière politique. Donc le travail politique se fait maintenant et pas avant.
Et pour ce qui concerne l'opposition, Elisabeth Pinault, puisque là aussi on parlait d'une situation paradoxale, à la fois donc un président qui est plus populaire que ses prédécesseurs au même moment, mais dans le même temps qui n'a pas la majorité des suffrages en termes de popularité, et une opposition qui peine à exister, et peut-on dire, elle peine plus à exister par exemple pour la droite parlementaire que c'était le cas lors des précédents mandats. Votre point de vue justement sur la manière dont l'opposition vit ce moment politique?
Je pense qu'on est encore complètement dans la recomposition politique initiée par Emmanuel Macron, avec une opposition qui est largement convalescente. Le Parti socialiste tente de ne pas disparaître. On en est là avec Olivier Faure à sa tête, mais il y a Benoît Hamon qui commence à émerger. Il y a Delphine Bateau qui vient de quitter le navire. Chez les Républicains, qui sont quand même le premier groupe d'opposition, avec une centaine de députés, beaucoup moins que ce qu'ils n'espéraient, à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez ne fait pas l'unanimité, c'est une évidence, donc il y a quand même un malaise.
C'est une évidence ?
Oui, il y a encore, hier, un député LR me disait, écoutez, moi je pense qu'il y a à peu près la moitié du groupe qui n'est pas vraiment provoqué, mais en même temps, on n'a pas d'opposition directe. Valérie Pécresse sème des cailloux, mais Laurent Wauquiez, chez nous on a la culture du chef, donc...
Qu'est-ce qui ne va pas avec Laurent Wauquiez ?
Je pense que ces positions ultra-sécuritaires sur les valeurs, que tout le monde ne les partage pas, les gens trouvent qu'il est toujours sur les mêmes thèmes, certains, hein, donc dans son camp, trouvent qu'il est toujours sur les mêmes thèmes. Les gens aussi voient que les sondages ne décollent pas.
Et puis son problème, c'est Emmanuel Macron et sa politique, quoi.
Exactement.
Et de droite, on en a
oui,
beaucoup parlé.
LR a voté plusieurs textes, et a voté celui sur la SNCF, entre autres, et en votera sans doute d'autres, hein, peut-être celui sur l'alimentation et l'agriculture, qui est un gros texte qui arrive la semaine prochaine. Ils sont censés être le premier groupe d'opposition. Alors, ce qu'on entend le plus, c'est la France Insoumise, qui ne sont que 17 sur 577 députés, ne l'oublions pas, avec un Jean-Luc Mélenchon qui a fait près de 20% à l'élection présidentielle tout de même. Donc, ce sont de loin les plus actifs, les plus bruyants. Hier encore, ils sont restés assis quand la délégation du Parlement israélien a été saluée par François de Rugy dans l'hémicycle, ils font des coups d'éclat, ils sont très présents dans la salle des quatre colonnes, et on a vu leur soutien au mouvement des universités biodiversité, mais dans, en même temps, ils n'ont pas réussi à faire le grand automne social autour de la réforme du Code du travail. Et puis là, ils tentent avec différentes manifestations, ils espèrent le 26 mai réunir, mettre toute la France dans la rue, mais force est de constater que on est loin encore du basculement vers un nouveau mai 68, ou en tout cas vers un basculement total de la France contre son président.
Et alors, pour comprendre cet animal politique étrange qu'est Emmanuel Macron, il y a eu une interview d'Emmanuel Macron qui est paru dans le numéro de la NRF de mai dernier, donc il y a quelques jours, avec, j'ai envie de dire, un univers mental assez étonnant. Alors évidemment, il est lié aux questions, mais je crois que le seul auteur vivant qu'Emmanuel Macron cite est Alain Touraine, le sociologue qui a publié un livre récent qui n'était pas complètement hostile au chef de l'État. Et pour le reste, la plupart de ses références sont des références d'un temps précédent, d'un temps gaullien. Alors il y a par exemple le bloc-notes de Mauriac, il évoque également Jean d'Ormesson, il évoque Giono. Alors souvent c'est pour répondre à des questions, mais on voit bien qu'il ne fait pas intervenir dans cette conversation d'autres références intellectuelles qui seraient des références contemporaine, et il dit « Le grand enjeu, c'est de sortir de l'insignifiance. Nous vivons depuis 30 ans une forme de postmodernisme mal digéré. » Postmodernisme mal digéré, qu'est-ce que ça signifie selon vous, Nicolas Rousselier ?
Je dirais, bon, quand il fait ses références aux écrivains, vous dites il n'y en a pas qui sont vivants. Bon, les écrivains, d'une certaine manière, ne meurent jamais. Il cite Giono, Céline, Chateaubriand. Donc de ce point de vue-là, c'est pas très étonnant. Le postmodernisme.
Je dis pas du tout que ce sont de mauvais écrivains. Il cite Gabriel Garcia Marquez, qui est un auteur plus récent que celui-là. Mais je veux juste dire par là que cet homme qui est présenté comme un homme jeune ne cite pas des références qui sont des références que lisent probablement les hommes de son âge, les femmes et les hommes de son âge.
Probablement parce que, pas tous, mais je pense qu'il met certains des auteurs contemporains, mais pas simplement en littérature, mais c'est vrai aussi dans l'audiovisuel, les films, etc. Y compris d'ailleurs aussi les universitaires, les chercheurs. C'est-à-dire qu'il met ça aussi dans le sac dans le même sac qu'on trouve nihilisme, égotisme, nombrilisme. Donc ça, c'est un type de référence et d'accusation qu'on a retrouvé dans d'autres interviews. Moi, ce que je dirais du point de vue plus politique, ce qui est intéressant, c'est que quand il parle d'insignifiance, ou si vous voulez, l'insignifiance n'est pas loin du pragmatisme, ou le pragmatisme n'est pas loin de l'insignifiance. Or, pour le moment, les réformes de Macron se font sous le sceau de la nécessité. Je dirais que c'est la politique tirée de la nécessité. La nécessité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut estimer que c'est une nécessité négative, la réforme de la SNCF. On retire des choses à ceux qui travaillent dans la SNCF. Tout ça est de l'ordre de la nécessité. Quand vous faites une politique au nom de la nécessité, à un moment donné, ce n'est plus une politique au nom de la volonté. C'est-à-dire la volonté du peuple ou la volonté de la nation.
Pourtant, c'est un homme qui se présente comme très volontaire, mais justement, cette critique contre le postmodernisme, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie une charge contre le relativisme? Parce que souvent, on considère que la postmodernité, c'est le fait que les récits religieux, par exemple, s'effondrent. Alors ça, c'est quelque chose qui est en phase avec le discours d'Emmanuel Macron aux Bernardins. Donc ceux qui généralement en veulent à la postmodernité sont ceux qui aimeraient restaurer de grands récits. Les grands récits, par exemple la métaphysique, sont ceux aussi qui pensent que la modernité est beaucoup trop relative, c'est-à-dire qu'elle considère que toutes les valeurs se valent. Est-ce que ça veut dire ça, selon vous, Nicolas?
Oui, certainement. En politique, le postmodernisme que dénonce Macron, c'est effectivement la politique qui a perdu la capacité à donner du sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même, d'une certaine manière, le Macron 1 nourrit éventuellement ce sentiment que la politique ne fait que suivre les nécessités qui s'imposent contre elle-même. Mais il propose quoi ? Il propose de retrouver du sens. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a un peu le discours sur la nation, le discours sur Jeanne d'Arc. Il est clairement pas trop histoire mondialiste. Et de l'autre côté, il y a l'Europe, puisque juste après votre citation, il parle de l'Europe. Donc il cherche un nouveau souffle, ce sera probablement Macron 2, et ce sera les élections européennes de l'année prochaine, dans l'Europe. Mais là, problème, parce que c'est une Europe en crise. Et c'est une Europe dont lui-même, il dit, c'est une Europe qui va finalement produire un drame, Et lui-même, c'est assez ça, étonnant, la franchise, il dit, je vais presque utiliser et mettre à profit la dramaturgie de l'Europe actuelle pour trouver un souffle.
Et alors justement, c'est effectivement ce passage-là d'Emmanuel Macron que j'aimerais citer, parce que là aussi, il est très étonnant, vous allez l'entendre. Paradoxalement, dit Emmanuel Macron, ce qui me rend optimiste, c'est que l'histoire que nous vivons en Europe redevient tragique. L'Europe ne sera plus protégée comme elle l'a été depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce vieux continent de petits bourgeois, se sentant à l'abri dans le confort matériel, entre dans une nouvelle aventure où le tragique s'invite. C'est étonnant, Elisabeth Pinault.
Oui, on le sent presque aiguillonné par le danger, et du danger il y en a en ce moment. Si on fait une lecture politique de tout ce que vous venez de citer, on peut dire qu'on alimente ici quand même le procès en arrogance d'Emmanuel Macron. Je pense quand on dit l'enjeu c'est de sortir de l'insignifiance, on pourrait dire mais pour qui se prend-il ? Ce que ses détracteurs pensent également. Voilà, ça me rappelle, cela dit, une autre citation d'Emmanuel Macron qu'il avait... Il avait dit cela devant l'association de la presse présidentielle. Il avait dit « Je suis arrivé par effraction et je ne vais pas m'en plaindre puisque, au fond, c'est ce que j'ai voulu. » Donc un président par effraction qui veut sortir de l'insignifiance.
Mais pour ajouter de l'eau à votre moulin, ce vieux continent de petits bourgeois se sentant à l'abri dans le confort matériel. Je pense qu'en 1946, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas mécontents d'être des petits bourgeois à l'abri dans le confort matériel.
Bah bien sûr. Alors que quelle est sa vision de l'Europe ? Alors, est-ce qu'il prend tout le monde pour des petits bourgeois ? Quand on sait que les classes moyennes peuvent lui en vouloir, enfin, c'est une de sa politique, notamment fiscale, c'est une vision tout de même. Il faudrait le réinterroger sur ces phrases. Je pense que ce serait bien d'en savoir un peu plus.
Interroger Emmanuel Macron. Oui. Sur Emmanuel Macron, Ludovic Piétonnu, oui. Un commentaire.
Non, mais sur l'Europe, c'est effectivement ce que disait Nicolas Rousseli, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va rentrer dans cette période d'élections européennes. C'est exactement cette élection-là qu'il a dans son viseur, toutes ses actions même, j'ai envie de dire, la réforme du travail, c'est pour faire plaisir à Angela Merkel, c'est pour donner des gages à ses voisins européens, donc c'est vraiment l'enjeu numéro un pour lui. Avoir du tragique, vivre le tragique, c'est aussi se poser en sauveur, en héros. Là aussi, c'est une position qu'on pourrait qualifier un petit peu de une position de hauteur, quoi, voilà.
Ouais. Il faut dire aussi que le terme de tragique, il est très référencé en politique. C'est un terme qui, par exemple, était souvent invoqué par Raymond Aron. Il était opposé à Valéry Giscard d'Estaing parce qu'Aron disait que VGE n'avait pas le sens du tragique, Nicolas Rousseli.
Oui, c'était pas vraiment opposé parce qu'en fait, j'y pensais.
Opposé. C'était une critique qu'Aron adressait
à
VGE.
Incontestablement, mais j'y pensais à cette citation parce qu'en gros, Raymond Aron, libéral en économie, disait en gros VGE, et puis ensuite Raymond Barre après 76, c'est parfait du point de vue des réformes pragmatiques, ils font des réformes au nom du libéralisme économique que moi, Raymond Aron, je défends aussi. Il y a juste un petit problème, c'est que ils s'occupent que de réformes techniques, pragmatiques, et ils oublient que l'histoire est tragique. À l'époque, la tragédie, c'est la guerre froide, c'est l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Donc, sur l'Europe, moi, ce qui me surprend, et je trouve ça vraiment presque gonflé de la part de Macron, c'est qu'en fait, il indexe le macronisme sur l'Europe. Et ça, c'est assez étonnant, parce que qu'est-ce qui va se passer dans un an ? L'élection européenne va combiner deux choses. Il va combiner un référendum sur Macron, donc tous les mécontents qui ont été additionnés par les luttes sociales depuis un an, puis deux ans. Vont s'additionner contre Macron au moment de l'élection européenne, et il va additionner à ça la rancœur contre les politiques voulues par Bruxelles et qui sont implantées en France à travers Macron. Donc il va additionner le sentiment anti-européen, ou disons le sentiment de critique européenne au nom de la critique du néolibéralisme, additionné à son référendum personnel. Et je trouve ça gonflé et risqué, et je pense que là, il fait de la dramaturgie, mais toujours autour de sa personne finalement.
Elisabeth Pinault.
Oui, c'est vrai que pour l'instant, les sondages lui sont plutôt favorables pour les européennes, mais enfin favorables. En France, il serait juste en tête. On en est juste là. C'est une élection où il y a toujours beaucoup d'abstention. Les eurosceptiques, donc LFI, plus le Front National, peuvent aussi faire un bon score si on les additionne. Et puis, que va-t-il se passer en Europe où les nationalistes montent ? Voilà, donc il peut se poser en sauveur de l'Europe. On verra le résultat des élections. Et si la France est seule, ça ne va pas être facile.
Si je peux me permettre juste juste une chose, je pense que quand même, le bon côté des choses, c'est que avec ce référendum sur Macron, pour une fois, les élections européennes vont avoir un vrai enjeu, et je pense que l'abstention va diminuer. Et que, pour une fois, regardez historiquement, la participation électorale aux européennes a constamment baissé depuis 79, constamment. C'est passé en dessous de 50% et c'est dramatique. Là, le bon côté des choses, c'est je prends les paris que ça va être au-dessus de 50%.
On a beaucoup parlé d'Édouard Philippe, le Premier ministre, de la manière dont celui-ci aurait pu être, sinon le Premier ministre, en tout cas dans un gouvernement si Alain Juppé avait été élu président de la République. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous rappelle Alain Juppé, en tout cas la période de décembre 1995, c'est le conflit social autour de la SNCF. Comment est-il observé par les parlementaires, notamment ceux de La République En Marche, Elisabeth Pinault? Quelle est la stratégie? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une tentation d'en finir avec cette réforme? Est-ce qu'au contraire, ils sont droits dans leurs bottes? Comment les percevez-vous?
Vous parlez d'Édouard Philippe, il a été envoyé au charbon pour la SNCF. Emmanuel Macron lui a fait annoncer toutes les mauvaises nouvelles. C'est d'ailleurs lui qui annonce aussi, qui a aussi tranché pour Notre-Dame-des-Landes. Donc il fait le job de Premier ministre, il tranche, il décide. Du côté des parlementaires, le Premier ministre est tout à fait bien considéré. C'est le chef de la majorité sans être membre de La République En Marche, ne l'oublions pas. Mais il arrive à gérer assez bien ce paradoxe. Il était à la fête sans champagne ni musique de mardi soir pour fêter les un an de son gouvernement avec les
Qu'est-ce
parlementaires.
Qu'est-ce que c'est que cette fête sans musique ni champagne?
C'est la fête dont parlait tout à l'heure Ludovic Piétenu. C'était une fête au musée des Arts Forains à Paris. C'était pour célébrer les un an. Le lieu était tenu secret jusqu'à la dernière minute pour que les journalistes ne soient pas là, pour qu'on en parle, mais pas trop. Vous voyez, on est toujours dans la communication plus ou moins.
Pour pas que ça fasse la rotonde, quoi.
Et on m'a raconté hier, salle des quatre colonnes, qu'il y a eu un petit discours de Christophe Castaner, le délégué général de La République En Marche, et de Édouard Philippe. Ils se sont échangés des cadeaux, notamment un bouquet de coton, car au bout d'un an, ce sont les noces de coton. Voilà, je vous raconte tout.
Donc c'est un couple qui marche.
Oui, c'était déjà offert un poulet, je crois.
Ah bon?
Oui, non.
Mais d'une façon plus générale.
Il y a des noces de poulet?
D'une façon plus générale, sur le dossier de la SNCF, l'idée est d'aller au bout. Et d'aller au bout le plus rapidement possible.
Le plus rapidement possible, mais et si la grève continue, si il n'y a pas de négociation, en tout cas de négociation jugée satisfaisante par les syndicats, par les salariés de la SNCF?
Écoutez, pour l'instant, le discours est très ferme, y compris d'Édouard Philippe. On veut bien discuter, mais on ne remettra pas en cause les grands éléments, notamment l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Donc on en est toujours là, et je n'ai pas l'impression que le gouvernement veuille céder.
Dans son interview au Monde, lundi, Édouard Philippe était très clair. Il disait, je parle aux syndicats, il n'y a aucun problème, on a des désaccords et c'est très bien comme ça, mais la force, l'intérêt général est représenté par le Parlement, disait-il, et pas les organisations syndicales. La loi sera votée, elle est discutée, elle sera votée, et elle s'appliquera à tous.
C'est d'ailleurs une des critiques des corps intermédiaires, les syndicats, la CFDT, qui se plaint. Ils disent, oui, ils veulent bien discuter, mais on discute de rien. Donc, à quoi bon?
Et pourtant, ça se passe très différemment de décembre 80. Alors, par exemple, les intellectuels qui s'étaient fait beaucoup entendre en décembre 95, aujourd'hui, ils sont moins nombreux. D'ailleurs, lorsqu'on pose la question du dialogue avec les intellectuels à Emmanuel Macron, je parle toujours de cette interview dans la NRF, il dit il n'y a pas encore eu de vrai débat pour l'instant. Et il semble, là aussi, considérer que ce débat n'a pas de véritable intérêt pour lui. Votre point de vue, Nicolas Rousselier, pourquoi les intellectuels sont-ils si peu audible aujourd'hui dans ce conflit social?
Là, j'aurais du mal à parler au nom de tous les intellectuels, mais pour rebondir, moi, ce que je trouve aussi frappant dans le macronisme, c'est cette capacité à faire l'acrobate entre démocratie représentative, c'est-à-dire le Parlement, la phase de Parlement dans une décision publique, la démocratie sociale, c'est-à-dire la négociation ou l'absence de vraie négociation avec les syndicats. Donc démocratie représentative, démocratie exécutive, démocratie sociale, ce sont différents pôles, et on a l'impression que le macronisme est capable de jouer un peu comme un chat joue avec une pelote de laine, joue avec ses différents pôles. En fait, l'action publique aujourd'hui passe par différentes séquences, différentes fenêtres. Le Parlement, mais le Parlement se suffit jamais à lui-même. La négociation avec le syndicat, mais elle ne se suffit jamais à elle-même. Et au bout du bout du bout, c'est toujours, bien sûr, l'exécutif qui a le premier et le dernier mot.
Un mot, Ludovic Piétenu.
Mais moi, je pense que ça peut être un frein quand même au macronisme, c'est-à-dire à force de donner le sentiment de piétiner un tout petit peu les corps intermédiaires, les journalistes y compris, mais on n'est pas les plus importants dans le fonctionnement d'une société. Je pense surtout aux organisations syndicales. C'est le sentiment que cette auteur, cette superbe macronienne, au bout d'un moment, va finir par agacer et exaspérer.
Un mot de conclusion, Elisabeth Pinault.
Écoutez, je pense qu'on a bien dressé un portrait de ces un an de Macronie. Voilà, beaucoup de communication. Et pour l'instant, un système qui fonctionne. Mais jusqu'à quand? Nous verrons.
La force de gouverner, c'est l'ouvrage que vous avez publié, Nicolas Rousselier, c'est chez Gallimard. Et je vous renvoie à cette interview qu'Emmanuel Macron a donnée à la dernière livraison de la nouvelle revue française.